EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Bonjour, je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP comme les champignons.
CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un peu comme un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société. On s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire. On rencontre d'autres personnes curieuses et engagées et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous serons avec vous une fois par mois, pendant 30 minutes, pour vous partager notre passion pour l'éducation populaire. Nous vous proposerons un tour d'horizon de ce qui constitue, selon nous, l'éducation populaire et découvrirons sujets, outils et invités au fil des émissions. Bienvenue dans EducPop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème qu'on aborde souvent dans nos formations, les émotions. Quel rapport avec l'EducPop, vous allez me dire ? Pourquoi s'intéresser aux émotions ? Quel intérêt ? Qu'est-ce que ça veut dire, repolitiser les émotions ? Et pourquoi faire ? De quelles émotions on parle ? Et en fait, comment on fait ça ? Eh bien, c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Pour commencer, moi, j'avais envie de dire que les émotions, aujourd'hui, je trouve qu'elles sont assez décriées, assez dévalorisées. Elles sont souvent associées à l'enfance, à la perte de contrôle, à l'irrationalité, voire même à la faiblesse, parfois à la maladie mentale ou même à la sauvagerie, au manque de civilisation. Alors qu'en fait, les émotions, ce sont des phénomènes biologiques et physiologiques, à la fois corporels et comportementaux, qui surviennent en réaction à ce qui nous arrive. Ce sont des moteurs pour agir, pour naviguer dans notre environnement, pour nous adapter et pour vivre ensemble. Elles sont naturelles, elles sont normales, elles sont physiologiques, tout le monde en a. Et elles sont même utiles, voire indispensables pour vivre, notamment en société. Alors comment ça se fait qu'elles sont aussi décriées ? En psychologie sociale, on dit que les émotions sont là pour nous donner des informations sur ce qui se passe en nous, sur nos besoins, nos valeurs et nos croyances, sur ce qui se passe dans les autres, à l'intérieur des autres, aussi sur leurs besoins, valeurs, croyances, et aussi sur notre environnement. Ça nous aide à prendre des informations. Par exemple, les émotions agréables, on va pas parler d'émotions positives et négatives, on va parler d'émotions agréables et désagréables. Donc par exemple, certaines émotions agréables, comme la joie, vont nous signifier que nos besoins, nos croyances, nos valeurs sont plutôt satisfaits, sont plutôt en concordance et qu'on peut continuer dans cette voie, ça nous encourage à continuer dans cette voie. Là où des émotions désagréables, comme la peur, le dégoût, la colère, la tristesse, vont plutôt nous signifier que ce qui se passe, c'est pas ok, qu'on n'est pas en accord, que nos besoins sont pas satisfaits et elles vont nous encourager de différentes manières à nous écarter de la voie qu'on suit et à en prendre une autre. Donc, les écouter, ça nous permet de continuer ou de modifier nos actions et nos comportements pour être davantage en accord, en congruence avec nos besoins, nos valeurs et nos croyances. Et ça nous aide à repérer si les autres y sont en congruence aussi et si l'environnement l'est également. Et donc, pourtant, malgré cette fonction très utile, les émotions ont mauvaise presse. Il nous est plutôt demandé dans la société de les maîtriser, de les cacher, de les garder pour l'intimité, de limiter leur expression à certains moments ou à certaines formes. Par exemple, je pense aux événements sportifs où c'est un des rares moments où c'est accepté de pleurer de joie. Ou je pense au congé en cas de décès du conjoint qui est limité. Je crois que c'est un jour après le décès. On a le droit de pleurer, de faire son deuil en un jour, mais après c'est censé être fini, ne plus prendre de place. Et il y a certains milieux notamment qui sont assez allergiques, notamment les milieux professionnels, les milieux collectifs, les institutions ou les espaces publics. Il suffit de voir comment je me sens, comment je réagis quand je vois des expressions d'émotion dans la rue par exemple, comme ça nous met mal à l'aise pour voir que les émotions sont quand même pas souvent bienvenues. Du coup, ne pas réussir à maîtriser ses émotions, à se montrer majoritairement, stoïque et équanime, c'est plutôt vu comme un défaut, et un défaut personnel, un manque de compétences. C'est quelque chose dont on devrait avoir honte et sur lequel on devrait travailler. On est beaucoup encouragé à faire de la gestion émotionnelle, à maîtriser nos émotions, sous-entendu, à être capable donc de ne pas les montrer. Du coup, dans ce cadre-là, ça me paraît très intéressant et très important de repolitiser les émotions. Mais qu'est-ce que ça veut dire repolitiser les émotions ? Pour moi, ça consiste à leur redonner leur contenu politique, littéralement, c'est-à-dire en fait à les reconnecter à ce qu'elles disent du monde autour de nous, à ce qu'elles disent de nous, ce qu'elles disent des autres et ce qu'elles disent du monde. C'est reconnaître leur utilité et leur pertinence et recommencer à les utiliser pour agir. Comme on a dit qu'elles étaient naturelles et physiologiques, on en a besoin et c'est reconnaître ce besoin et agir avec elles. Repolitiser les émotions, c'est reconnaître par exemple que c'est normal de ressentir de la colère et de la tristesse quand on vit une situation d'oppression. La colère, elle est là pour indiquer que nos besoins ne sont pas satisfaits, que nos valeurs ne sont pas respectées, et pour nous donner l'énergie de modifier la situation. Et idem quand on perçoit la détresse de quelqu'un d'autre, c'est normal de ressentir en empathie de la colère ou de la tristesse pour aider la personne, accompagner la personne à modifier sa situation. Donc c'est aussi, repolitiser les émotions, ça permet aussi de retrouver de l'élan collectif. Repolitiser les émotions, c'est aussi remonter le fil des causes, remonter à la source des causes. C'est-à-dire que par exemple, si je suis triste et épuisée, ce n'est pas tant parce que je gère mal mon stress, mais bien parce que la société capitaliste tente sans arrêt de m'exploiter et voudrait d'ailleurs que j'y consente joyeusement. Et pourquoi c'est intéressant et important de remonter les causes, de verticaliser les colères ou de verticaliser les émotions, comme on aime bien dire ? Eh bien parce que ça permet déjà de diminuer la culpabilité, la responsabilité individuelle. Parce que se dire que c'est nous-mêmes qui gérons mal nos émotions, bah c'est très lourd à porter, ça nous encourage à faire beaucoup de développement personnel, beaucoup d'exercices, je sais pas, de méditation, de yoga, de prendre un bain et tout ça pour essayer de gérer tout seul en fait ce qui se passe, alors que si on se sent comme ça, c'est évidemment pas notre seule faute, voire des fois pas du tout notre faute, et que ce serait bien plus intéressant et pertinent d'adresser la cause au-dessus, qui est plutôt collective ou institutionnelle. Donc pour moi, c'est le deuxième intérêt, adresser les bonnes causes pour choisir où mettre son énergie et du coup gagner potentiellement en efficacité. Parce que si on travaille, si on adresse des problèmes comme par exemple la société capitaliste, on pourra prendre tous les bains qu'on veut, a priori on va pas changer grand-chose. Alors que si on adresse les bonnes causes, on a peut-être une chance ensemble de pouvoir modifier ce qui se passe. Et c'était, du coup ça amène à un autre intérêt selon moi, aller vers des changements structurels qui bénéficient à toutes et tous, versus des changements ou des politiques de gestion individuelle qui fragmentent, isolent et dispersent les énergies. Je vois que ça opine du chef dans la salle. Nos invités vont bientôt pouvoir avoir la parole. Et pour finir, je dirais que repolitiser les émotions, ça permet aussi de se relier à d'autres et d'agir ensemble, ce que ACEP, on aime particulièrement, et qui est plus efficace que d'agir tout seul dans son coin, et qui en plus, le fait d'agir en collectif, ça permet de satisfaire plein de besoins. Donc ça devient rapidement une boucle vertueuse, où nos émotions nous poussent à agir ensemble, et le fait d'agir ensemble, ça nous permet de susciter des émotions positives, agréables, etc. Voilà pour la petite introduction sur pourquoi on avait très envie de parler de ce sujet, repolitiser les émotions, pourquoi c'est important à CEP, et pourquoi nos formations en sont remplies. Pour parler de ça, nous allons donner la parole à nos invités, mais avant ça, nous allons faire une petite pause musicale.
Il y a ma main dans la fenêtre, titanique. Il y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Et plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour.
Et nous sommes de retour dans l'émission Éduque Pop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ? Et nous parlons aujourd'hui des émotions, de repolitiser les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel rapport avec l'Éduque Pop ? Et quel intérêt ? Et pour cela, nous avons deux super invités. Nous avons Caroline Robineau, qui est ma chère collègue et amie avec qui je fais les stages et les formations. Même pas peur. Bonjour Caroline.
Bonjour Juliette.
Et nous avons aussi avec nous Antoine. Salut Antoine.
Hello Juliette.
Antoine qui a participé à un stage même pas mal, une formation que j'organise pour les hommes et qui va pouvoir nous en parler un peu. Alors j'avais envie de commencer avec toi Caroline. Selon toi, donc toi qui travailles avec moi et qui travailles aussi sur les émotions avec des enfants et dans des EHPAD, quel rapport tu vois entre l'éducation populaire et les émotions ?
C'est une bonne question.
Je pense qu'il y en a tout un tas. Entre autres, c'est l'idée, en tout cas, c'est notre approche ensemble et que j'essaye d'avoir ailleurs aussi, de partir vraiment des gens, de leur expérience, de leur connaissance, de leur vécu. Et c'est en ça que le lien est d'un coup évident, puisque les émotions sont aussi personnelles et liées au vécu. Et donc de partir d'abord de ça, pour en faire un savoir personnel puis collectif, et en tirer une expérience, des stratégies éventuellement. Moi, je suis toujours bluffée quand on fait les stages ensemble, par exemple, à quel point, on est à 6, 7e stage, et à quel point c'est en écoutant les autres que je continue à apprendre, à découvrir et à décortiquer des choses que j'ai l'impression d'avoir déjà vues et revues et reanalysées.
Et tu veux dire les autres te font une sorte de miroir
Exactement, et, ou alors me poussent plus loin, ou me permettent d'aller voir les choses autrement, et par l'approche d'Éduque Pop qu'on a avec différents outils et exercices, ça permet vraiment de faire ressortir ces connaissances et de se nourrir les uns les unes les autres, et de grandir et de penser des choses différemment.
Trop bien. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Que de l'Éduque Pop, un des principes, c'est de partir de l'expérience des gens, de considérer qu'ils sont des experts. Et comme on a tous et toutes des émotions, c'est vraiment un sujet où les gens ils partent de leur propre matière. Et on essaie de les accompagner à se réapproprier cette matière et à dire qu'elle est légitime, en fait.
Exactement. D'une, qu'elle est légitime, ce qui fait immensément de bien. Je le vois à chaque fois qu'on ouvre cet espace-là, à n'importe quel âge. C'est incroyable de voir comment c'est émouvant et de voir que les personnes se disent « Ah bon, j'ai le droit ». Et d'un coup, ça donne du pouvoir d'agir, j'ai l'impression, aux personnes. Et légitime, et à quel point aussi ça nous aide à sortir des stéréotypes qu'on va projeter sur les personnes quand j'interviens. Que ce soit sur la confiance en soi auprès des enfants, où on pense quelque chose avec l'instit. Mais finalement, moi, je prends toujours un temps pour aller voir les enfants et dire « Mais attendez, pour vous, c'est quoi ? En fait, c'est quoi la confiance en soi ? C'est quoi l'estime de soi ? Où est-ce que vous avez besoin qu'on travaille ? Est-ce que vous avez besoin qu'on travaille là-dessus » et forcément, c'est différent que ce qu'on a pensé. Et de voir qu'eux-mêmes ont les solutions. Moi, je ne fais rien, je tiens un cadre à peu près, et puis je les laisse avancer tout seul. Ou sur le désir avec les personnes âgées, enfin... C'est vraiment, ça permet on est en géométrie, d'horizontaliser les choses et d'arrêter de sortir de son bureau en disant « Alors je sais, le désir pour les personnes âgées, c'est telle et telle chose. » Et voilà.
Ouais, je suis super d'accord aussi. Je vois que c'est à la fois aborder les émotions et les aborder avec de l'éducation populaire, ça permet d'être vraiment dans un des objectifs de l'Éduque Pop, à savoir l'émancipation sociale, et que ce soit les gens eux-mêmes qui fassent pour eux-mêmes, par eux-mêmes, qu'ils gardent en main en fait les outils de leur propre libération, parce que comme il s'agit de leur vécu intime et qu'ils ont déjà les stratégies, ben il y a pas, enfin il y a vachement moins de risques, je trouve, qu'on fasse passer par le haut en fait, que ce soit descendant et que ce soit nous qui donnions un peu les solutions, alors que voilà, nous dans nos formations en tout cas, on les a vraiment pas et on part de ce que les gens ils amènent et de ce qu'ils font déjà en fait.
Et je pense que c'est particulièrement important avec les émotions. Ce que tu disais en introduction, c'est à quel point on les cache, on essaye de nous faire croire qu'il faut les cacher. Et du coup, ça vient vraiment redonner de la place à ça, à ces émotions. Et c'est vraiment important.
Mmh. Et comment on fait ça? Comment on fait pour aborder les émotions en Éduque Pop, nous, dans nos formations
Comment on fait ça? On pose un cadre hyper précis et qui permet plein d'ouvertures en même temps, et c'est tout le défi. Mais un cadre de sécurité, je pense, c'est vraiment important. Un cadre où on va aussi se positionner, nous. Je pense que dans la dernière émission, vous en avez parlé, que moi, je parle de mon point de vue, de qui je suis, avec mes particularités sociologiques, psychologiques et toute la clique. Et on se sert d'outils. Variés. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère faire, c'est avoir des approches multidisciplinaires pour que ça puisse rejoindre les gens à différents endroits, en eux, mais aussi en fonction de leur sensibilité. Donc, ça peut être de l'écriture, du photolangage, c'est-à-dire passer par du visuel pour donner la parole aux personnes, qu'elles s'inspirent d'une image, d'une photo, d'un dessin. Des ateliers plutôt, on va dire, de corps, de mouvement, de théâtre, etc.
Mmh. Ouais. Du coup, il y a à la fois le cadre, parce que quand il s'agit d'émotions, il y a quand même de la vulnérabilité qui est en jeu. Et du coup, pour pouvoir leur laisser la place, aller les voir, et ça demande une certaine sécurité, une certaine maîtrise. Donc on assure ça. Et de l'autre côté, ouais, l'aspect pluridisciplinaire, pour proposer plein d'angles et que les gens s'y retrouvent. Et ouais, on alterne aussi, tu as parlé de corporel, on alterne corporel, théorie. Où à la fois on fait émerger des connaissances que les gens ont, et à la fois il y a un côté un peu mise en pratique, et notamment en passant par le corps.
Exactement, et puis d'avoir une conscience toujours plus aiguë sur les rapports d'oppression qui peuvent s'installer dans un groupe ou entre animatrice, animateur et le reste du groupe. Enfin, d'avoir vraiment d'essayer d'éveiller tout le temps ça pour être très attentive sur la répartition de la parole.
Mmh. Ouais, carrément. Trop bien, merci Caro.
De rien.
Et bah d'ailleurs, pour parler un peu de comment ça se passe et comment on vit un stage, on a avec nous Antoine qui a participé à un stage même pas mal. Antoine, quel intérêt tu vois, toi, à travailler sur les émotions? Parce qu'en plus, le stage même pas mal, du coup, pour rappel, c'est sur la vulnérabilité et les masculinités. L'idée, c'est d'essayer d'aider les hommes à se reconnecter avec leurs émotions, puisque le patriarcat les coupe beaucoup de toute cette sphère-là, puisque pour changer, on a besoin d'avoir des compétences socio-émotionnelles sacrément solides. Et donc, c'est ce qu'on propose de faire dans le stage. Toi, quel intérêt tu vois à travailler là-dessus?
C'est un long chemin, mais moi je pense qu'on peut pas y arriver comme ça en un week-end à développer d'un seul coup ces émotions-là, parce que comme tu as dit, en tant que mec, moi je suis un mec cisgenre et hétéro, j'ai été vraiment dans un moule de à un moment donné le patriarcat nous terrorise et nous dit que on regarde plus nos émotions et qu'il faut avancer, quoi. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Et moi, ce qui me permet de... Enfin, je suis heureux d'aller dans ce chemin-là pour arrêter de faire semblant et d'être plus intègre avec moi-même, de ne pas me faire du mal, d'arrêter de croire que je vais bien alors qu'en fait, ça ne va pas, de me mettre des œillères. Et donc, ouais, arrêter de prétendre que je gère une situation, mais de voir quand on progresse, du coup, vraiment, et de voir quand ça ne va pas... quand je perds pied, quand je me referme, enfin être conscient de là où j'en suis à l'instant présent, quoi. Revenir dans une présence aussi. Mmh.
Et est-ce que tu trouves que c'est politique et en quoi? Parce que je sais que c'est quelque chose qui t'est cher, que t'es pas très développement personnel non plus.
oui, ça me parlait beaucoup quand vous disiez j'aimais verticaliser les émotions et horizontaliser les vécus. Enfin, il y a un truc assez beau, je trouve, là, qui est posé. Mais en fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Enfin, c'est ça. Je trouve que c'est très bien d'aller dans du développement personnel, mais à un moment donné, il faut collectiviser tout ça, il faut confronter. Et donc, c'est politique de faire. En fait, le processus de même pas mal, je trouve qu'il est politique dans le sens de faire prendre conscience aux mecs qu'on est terrorisé par le patriarcat et qu'on nous a appris à ne pas regarder nos émotions, oui, quoi, c'est politique. Il y a plein de féministes qui le disent et c'est ça.
Ouais, puis un des objectifs du stage, c'est d'acquérir des compétences socio-émotionnelles du coup pour pouvoir changer, pour avoir des relations plus saines et pour être en capacité de se confronter aux discours féministes et aux demandes féministes. Mmh. On le met en rapport tout au long du stage. Le but, c'est pas juste d'acquérir un mieux-être pour les hommes, ce qui est un objectif en soi, mais c'est aussi d'être en capacité d'entendre, de recevoir les demandes féministes de changement et de les mettre en œuvre pour aller vers une société qui soit moins sexiste et plus égalitaire pour toutes et tous. Et comment t'as vécu le stage, toi ? Comment t'as vécu le fait de travailler sur les émotions avec ces approches dont on a parlé avec Caroline et en collectif et avec l'Éduc Pop ?
C'était super riche. Un truc que je garde, c'est vraiment le cadre qui est posé, qui fait du bien et qui permet de droit à l'erreur. Enfin, on est vraiment là pour progresser ensemble. Et un cadre où on a ce droit à l'erreur, on est entre mecs aussi. Enfin, il n'y a que des mecs qui sont un stage pour gars. Il n'y a pas beaucoup d'espace où on est entre gars à aller chercher nos vulnérabilités. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus... le reflet des autres personnes, les thématiques que les mecs abordent, les questions qu'ils se posent, les trucs qu'ils comprennent pas dans le féminisme, qui sont apportés, qu'on peut répondre ensemble, la théorie qu'on voit ensemble, on a des mêmes bases, et ensuite, voir où ça nous emmène. Et dans le stage, il y a des moments où on a fait le petit histoire, grande histoire, et c'était ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Ça permet vraiment de se poser des questions, quoi, de pourquoi on est là, même pas mal, relire un peu son histoire et la confronter aussi à la grande histoire du féminisme et de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, quoi.
Bah pour celles qui nous écoutent, du coup, petite histoire, grande histoire, c'est un atelier d'éducation populaire qui consiste à créer une frise collective à partir d'expériences et de témoignages personnels qui mélangent du coup des choses qu'on a vécues dans notre intimité, rencontrer telle personne. Vivre telle chose et des événements, on y met aussi des événements collectifs comme avoir participé à telle manifestation, etc. Et du coup, à la fin, ça constitue une grande frise collective sur une thématique, en l'occurrence, c'était en lien avec le féminisme. Qu'est-ce qui nous a amené à ce stage voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui t'a beaucoup parlé.
Oui, merci d'avoir précisé ce que c'était, pas tout le monde. Oui. Mais c'est ça, ça permet vraiment d'avoir fait un moyen de confiance, de cadre commun. Et ouais, c'est une plongée dans nos travers de gars, de trucs qui sont imbriqués en nous et inconscients, et enfin d'aller montrer à nos leaders se les montrer à chacun et voir comment on peut s'accompagner. Trop beau, quoi.
Trop bien. Et d'ailleurs, tu as employé le mot plongée, mais c'est quelque chose, c'est une structure de formation qu'on utilise. Dans celle qu'on donne, quoi, qu'on imagine que c'est une plongée dans les émotions, en commençant par acquérir un peu de connaissances, rassembler de la connaissance pour se donner de la maîtrise, puis plonger plus profondément dans qu'est-ce qu'on a en nous individuellement et collectivement, et puis ensuite en ressortir pour retrouver de la puissance d'agir et pouvoir retourner dans le monde en étant mieux outillé. Et dernière question peut-être, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Est-ce que si tu pouvais dire, nommer une ou deux choses avec lesquelles tu es reparti et qui te servent encore maintenant, ou que tu creuses encore ?
Ouais, je me rends compte que c'est possible de parler à des gars de façon émotionnellement ouverte. C'était une des premières fois où voilà, je pouvais communiquer avec des mecs et je vois qu'émotionnellement ça répond, ils comprennent, il y a de l'empathie, du coup ça m'ouvre de l'empathie pour des gars. Et c'est des choses qui sont pas du tout fréquentes. Donc ça, c'était vraiment bien. Et c'est en fait comment on fait pour continuer après ce stage-là, quand il n'y a plus ce cadre-là, quand il n'y a plus tout ce qui a été créé, mis en place pour que ça se passe bien, comment on fait pour le mettre dans sa vie de tous les jours. Et là, faut repartir avec toutes les ressources de ce stage-là et continuer à creuser les livres, parler avec son père, avec ses pères, remonter les causes, en fait, un peu de pourquoi on est bloqué émotionnellement et pourquoi on a honte de parler de fois quand on va pas bien, quand on est stressé, quand on a peur. Pourquoi c'est la colère tout le temps. Enfin voilà, chercher son fil, quoi.
Ouais, ok. Du coup, le stage, c'est un peu comme un premier pas qui doit être suivi de nombreux autres pour mener quelque part, quoi.
Mmh. je pense que ça peut ne pas être le premier, le stage. Oui, avoir commencé un peu quand même des trucs, j'en sais rien. Ça peut être le premier, pas aussi. Mais enfin, en fait, c'est un chemin. C'est un chemin. Si on fait juste ce stage et après rien, bah, c'est dommage, quoi.
Ouais, ok. Merci, Antoine. Et je voulais qu'on prenne le temps quand même de dire deux mots de l'autre formation qu'on fait, qui est Même pas peur, qui est une formation féministe qui s'adresse plutôt aux femmes, aux personnes sexisées, bien qu'on ait tenté des sessions ouvertes à tout le monde récemment. Mais du coup, on se penche particulièrement sur l'émotion qu'est la peur et on cherche à repolitiser la peur. Caroline, est-ce que tu as envie d'en dire deux mots, par exemple, pourquoi on s'intéresse particulièrement à la peur ?
Pourquoi ? Ce qui m'est venu en y repensant, c'est que je suis toujours touchée par ce moment où, je pense que c'est plutôt toi qui dis ça, où tu questionnes le groupe en introduction sur imaginer toute l'énergie qui se libérerait si la peur, je ne sais plus, tu le formules bien mieux que moi, mais était plus là, je ne sais plus comment tu le dis exactement. Et la réaction du groupe me touche tout le temps. Une espèce d'ouverture des corps, de tension qui relâche, d'émerveillement, de « Ah bah oui, tout serait possible !» Quelque chose qui est fou. Et juste pour ça, ça vaut le coup. Donc le stage, il n'est pas là pour dire « faut plus », même s'il s'appelle « Même pas peur ». C'est plutôt « Même pas peur » d'aller affronter et discuter, et peut-être pas affronter nos peurs, en tout cas d'aller en parler. Mais ce n'est pas du tout un dogme de ne plus avoir peur. C'est hyper important parce qu'on se rend compte à quel point cette émotion, en tant que femme, en tout cas, moi, j'ai l'impression, dirige beaucoup mes choix, ma vie, et que c'est une émotion aussi qui m'a été intégrée. C'est vraiment, et c'est tout l'intérêt, je trouve, de s'intéresser à ce thème émotion et politique, et vraiment de prendre conscience à quel point nos émotions dirigent nos choix intimes et politiques, dans nos votes, mais dans plein d'autres moments, mais à quel point aussi elles sont dirigées par les choix politiques. Et que c'est vraiment une espèce de cercle vicieux ou vertueux, suivant ce qui a été décidé, qui se nourrit. Et de faire remonter, verticaliser cette émotion, de partager, de réfléchir à des stratégies, de l'accueillir, juste de l'accueillir et d'arrêter de se sentir nul parce qu'on a peur, alors qu'on nous apprend à avoir peur depuis toujours. Ouais, pour ça, ça vaut le coup.
Ouais, puis on voit particulièrement dans le contexte actuel comme la peur est utilisée. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des processus de terrorisation collective qui sont utilisés pour nous faire craindre, nous faire imaginer et craindre des menaces et du coup diriger, orienter des comportements, notamment des comportements de vote, mais plein d'autres. Là, en ce moment, avec les montées du fascisme et de l'extrême droite, je trouve qu'on le voit très très fort. Et du coup, l'intérêt de connaître cette émotion qu'est la peur et de savoir y réagir pour retrouver une forme de choix, de capacité d'action face à elle, ouais, ça me paraît aussi vraiment important.
Oui, et puis même, je me questionne dernièrement sur aussi plutôt le côté à gauche où les gens ont marre d'entendre parler de la peur et du coup la rejettent. Enfin, j'ai presque cette sensation ces derniers temps où en fait, il faudrait en parler encore plus, auquel elle est utilisée pour nous manipuler dans une certaine manière, mais faut continuer à l'étudier, à la regarder en face et bienvenue, entre autres à nos stages, mais juste à la réflexion autour de cette émotion puis des émotions en général.
Merci Caro.
Merci Juliette.
Et pour terminer cette émission, on rebondit avec les dates, les prochaines dates de l'association CEP sur Valence, avec justement le 11 juin. Un arpentage sur tous ces nouveaux régimes d'extrême droite qui conquièrent des pays partout dans le monde. Et donc voilà, au cause toujours de 15h à 18h, on va arpenter des ressources historiques, sociologiques, etc. pour mieux comprendre ce qui se joue actuellement dans la fascisation du monde. Et on continue sur cette lancée avec le 15 juin, une journée qui s'appelle « Affronter l'orage » pour se relier, s'organiser et vaincre l'extrême droite. Ça se passera probablement à la Maison des syndicats à Valence et on va entendre parler de beaucoup d'expériences passionnantes de lutte populaire contre l'extrême droite. Voilà, donc on vous en reparlera bientôt. Venez nombreux. Et on se retrouve en juin pour la dernière émission de notre première année à Radio BLV sur une émission sur les enfants dans tout ça. Les enfants dans l'éducation populaire, quelle est leur place, quels sont les débats qui animent le monde de l'éducation populaire vis-à-vis de l'agisme et de la pédagogie. Voilà, on sera très content d'accueillir des invités pour en parler avec nous. Merci à vous et à bientôt.
Merci Valou.
Éduque Pop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.